Merci Seigneur encore pour merci pour l'église locale, merci pour les frères et sœurs, merci pour l'assemblée. Merci Jésus pour l'amitié, merci pour les gens que tu mets à nos côtés. Merci Jésus. Merci pour les familles que nous représentons. Amen. Amen. Permets-moi de partager, Seigneur, ce que tu as mis sur mon cœur. Alors, Johanna l'a dit, le week-end prochain, il y a éclosion. Je dis juste un mot, donc une conférence qu'on a eue. Ça a commencé par les sœurs, j'allais dire, ça fait le troisième, ça a commencé par les sœurs. Il y aura une journée spécifiquement pour les sœurs et le reste pour sœurs et frères, et donc avec tout le monde. Et l'année dernière, le week-end avant, j'avais partagé aussi par rapport à, il y a une idée de remobiliser un petit peu tout le monde, de bien comprendre pourquoi on fait ça. Donc si vous êtes de passage, ce n'est pas grave, parce que la plupart des notions peuvent être réutilisées dans le quotidien de nos vies. D'accord ? Mais c'est vrai que c'est un peu spécifique par rapport au week-end prochain, ce que j'avais à cœur de partager. Et le journal a dit, c'est une conférence, on ne vit pas de conférence, mais on se rend compte qu'il y a des gens qui vivent de conférence. Et ce n'est pas la norme et ce n'est pas normal. C'est l'église locale, ce qui est la norme, ce qui est normal. Et de temps en temps, il y a des conférences où c'est comme, j'avais ce terme-là, je l'ai entendu hier, c'est la réalité d'un instant. C'est-à-dire qu'il y a un instant où on vit quelque chose, waouh. Alors, on peut le vivre tous les jours, évidemment, mais c'est comme un événement mis à part. Mis à part, c'est un temps mis à part par Dieu où il se passe des choses. Et Johanna l'a dit, on croit vraiment que ça va être un jour de salut. On s'attend à ce qu'il y ait vraiment des conversions. C'est un jour de guérison, un week-end de guérison. C'est un week-end de restauration, c'est un week-end de réveil, c'est un week-end de délivrance. C'est un week-end où on va vivre la présence de Dieu. Et nous en sommes absolument persuadés. Amen. C'est juste mon introduction, je veux juste aussi nous dire et qu'on ait tous conscience qu'on accueille des frères et sœurs qui viennent de partout. Il y a une soif et une faim actuellement dans le peuple de Dieu, les gens ils traversent la France. L'an dernier il y a quelqu'un qui est venu de La Réunion ou de l'île Maurice, je ne sais plus, juste pour venir à la conférence. C'est juste pour vous donner des idées. Il y a plus de 1000 personnes, alors je ne sais pas combien il y a, 1300 personnes, ce n'est pas une histoire de nombre, c'est une histoire qu'il y a des gens qui font des kilomètres pour venir vivre quelque chose. Alors, je pense qu'on est plusieurs à avoir fait la même chose. Moi, quand j'étais ado, c'était en Angleterre. Moi, je faisais, je ne sais plus, on a dû faire plusieurs fois des 15 heures, des 20 heures de route avec une caravane pour aller à une conférence d'une semaine. Une fois, on est allé à Berlin juste pour écouter une prédicatrice. Et des exemples comme ça, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont vécu ça. Et peut-être comme nous, on est à l'intérieur, peut-être que nous, comme on est à l'intérieur, on s'en rend peut-être un peu moins compte. Alors ceux qui sont impliqués dans l'organisation, ils le voient, parce qu'on voit les gens qui s'inscrivent, on voit parfois d'où ils viennent, et en fait c'est des gens de partout, c'est des gens de partout. Et comme dans une maison, un foyer ou une famille, parfois il y a des choses où nous on est habitués. Je vous donne un exemple, moi j'ai une maman qui cuisine très bien, et en plus elle est née ici, mais depuis 40 ans ou 50 ans, ils vivent dans le sud de la France, mais par exemple elle sait très bien faire la choucroute, une vraie choucroute comme en Alsace, vraiment comme en Alsace. Et une fois, je suis invité dans une famille où ils me disent qu'on va manger une choucroute. Sauf que quand j'arrive et qu'ils ouvrent le plat, c'est une choucroute de légumes. Il y avait même du maïs chaud. Je ne savais même pas que ça existait, le maïs chaud. Et c'était juste pas bon. Mais en fait, j'étais tellement habitué dans ma famille à avoir une bonne choucroute que quand on sort, eh ben là, on se rappelle, ah ouais, non, mais c'était bon à la maison. C'est bon ? Et cet exemple-là, pourquoi je nous le donne ? Parce que je ne voudrais pas que chez nous, nous, les gens de notre assemblée, on n'est pas conscience de ça. Pas parce qu'on est meilleur, pas parce qu'on vit des grandes choses, pas parce que Dieu se pointe ces temps-ci dans notre assemblée où on vit des choses. Mais réellement, on vit des choses. Et il y a des gens qui viennent de partout. Et je ne voudrais pas qu'on soit des enfants, entre guillemets, pourris gâtés. Et par la grâce de Dieu, on a des gens qui vont venir parce qu'ils veulent avoir un aperçu de ce qui se passe, un aperçu de ce qu'on vit. Donc je pense qu'il nous faut vraiment en avoir conscience. Et nous, c'est ce qu'on veut donner, c'est ce qu'on veut partager. Amen. Et donc voilà, mon dernier tout petit point d'introduction, c'est aujourd'hui, c'est de pouvoir remobiliser tout le monde, qu'on ait vraiment conscience de ça. Et quand je discutais avec notamment Blandine, Noémie, qui s'occupent un peu de superviser toute l'organisation, à la fois pour Éclosion et à la fois aussi pour le quotidien de l'église locale, j'ai eu aussi l'échange avec les serviteurs pour les enfants, il y a comme, entre guillemets, un petit laisser-aller. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui servent fidèlement, mais il y a aussi des gens où on n'a pas pris complètement conscience du service, de ce que ça coûte, de ce que ça veut dire, de la fidélité. Et je ne dispute pas les gens. Franchement, je ne nous dispute pas. mais vraiment qu'on puisse se remobiliser par rapport à ça et voir le sérieux qu'il y a par rapport à tout ce que nous faisons. Rick Warren, il dit, il y a que deux catégories de gens. C'est Rick Warren qui le dit, comme ça on ne peut rien me reprocher. Il dit, il n'y a que deux catégories de gens. Il y a ceux qui prennent et il y a ceux qui donnent. Donc, Rick Warren, c'est bien de citer les gens, comme ça on n'a pas d'embrouille. Il y a ceux qui donnent et il y a ceux qui prennent. Alors évidemment, c'est une invitation à se dire, ben, moi je veux faire partie de ceux qui donnent. Amen. En plus, dans ce petit partage-là, ce matin, cette exhortation, on a voulu intégrer les paroles prophétiques qui ont été reçues pour la semaine prochaine. Si on fait la semaine prochaine, c'est parce qu'on l'a reçue de Dieu. Sinon, on ne le fait pas. C'est évident. Donc, il y a toute une équipe dans l'église prophétique, une équipe d'intercession. Il y a toutes les réunions du matin. Et du coup, tout ça a fait un ensemble de paroles prophétiques qui est très important. Donc, je ne peux pas toutes vous les donner. Mais j'ai essayé d'en résumer certaines et de les intégrer dans ce que j'ai à cœur de partager ce matin. C'est bon ? Il y a trois mots ce matin qu'on veut partager. C'est trois notions et on va les développer ensemble. Disciple de Christ, serviteur fidèle, ouvrier dans sa moisson. Et c'est bien moisson, hein. C'est pas dans sa mission, même si c'est vrai aussi. C'est pas dans sa maison, même si c'est vrai aussi. C'est ouvrier dans sa moisson. Et ces trois mots qui sont complémentaires, mais un petit peu différents les uns des autres. Et c'est vrai qu'on a prêché plusieurs fois sur la vie de disciple, sur le fait d'être un disciple de Jésus-Christ, qu'on n'est pas appelé à être des spectateurs, etc. Mais là, je veux rentrer encore plus dans le détail et comme choper des notions sur certains de ces mots, parce que ça va nous enrichir et nous remobiliser. Amen. Le premier, disciple de Christ. Donc, on va voir les trois en même temps. Disciple de Christ, et si tu veux mettre les versets, on lit quelques versets. Alors, il y en a, je ne sais plus combien, c'est en centaines. Hein. Donc, j'en ai pris trois, comme ça, juste pour vous dire rapidement. Dans Matthieu, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Et un peu plus loin, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. La définition du mot grec « mathétès », définition, c'est un étudiant ou un élève. Donc première notion d'un disciple, c'est un étudiant ou un élève. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui apprend. Et il apprend de quoi ? Il apprend pas tout seul dans son coin. Là, dans cette notion-là, il apprend de son maître. C'est bon ? Jésus, c'est le maître. Le disciple, c'est l'élève, c'est l'étudiant qui est avec. Et nous, nous sommes appelés tous les jours à faire ça. Est-ce que c'est bon pour ça ? On l'apprend parce qu'il y a une proximité avec le maître. C'est comme ça qu'on apprend. On apprend parce qu'on entend les enseignements, mais aussi beaucoup parce qu'on le voit vivre. Etc. Et c'est cette proximité avec Jésus qui fait qu'un élève, un étudiant devient disciple. Amen. Il est un disciple, il écoute Jésus, il obéit, il marche avec lui, il lui ressemble. Il y a trois semaines, un mois, je ne sais plus quand c'était, on était en Suisse, et il y avait six sœurs, sept sœurs, et votre humble serviteur. Parce que c'était une conférence pour les jeunes, du coup moi j'ai accompagné. Et en fait, le soir, quand tu rentres à la maison où on dormait, ben, tu vois les gens avec qui tu es, tu vois celle qui mange après la réunion, tu vois celle qui prend un café le soir avant d'aller se dormir, tu vois celle qui va rester une heure et demie dans la salle de bain, tu vois tout ça. Pourquoi tu le vois ? Parce qu'il y a une proximité, parce qu'on passe une soirée ensemble. D'accord ? Et avec Jésus, c'était ça. Et parfois, on oublie, c'est que pendant 3 ans, les disciples, ils marchaient tous les jours avec Jésus. Alors, il y a toutes les histoires qui sont racontées dans la parole, mais on est d'accord qu'il y a tout le reste. Il y a tout le reste du quotidien qui n'apparaît pas. Et c'est tout ce reste, il y a entre guillemets, c'est très peu ce qui est raconté par rapport à 3 ans. Ça rentre sur, ben, vous l'avez. Ça rentre, allez, ça dépend. Là, c'est en plus gros caractère parce qu'avec l'âge, 45 ans, les hommes, ils ne voient plus rien. Donc, par rapport à la parole, quand vous réfléchissez, c'est ça. 3 ans de vie, c'est raconté sur ça. Et il y a tout ce qui n'est pas raconté. Et tout ce qui n'est pas raconté, et évidemment que les disciples, ils apprenaient énormément aussi. Et du coup, là où je veux en venir, c'est qu'en premier, on doit être un disciple, étudiant, élève du maître. Ça, c'est la première chose à laquelle Jésus, Dieu, nous attend. Amen. Dans les paroles prophétiques qui ont été reçues pour éclosion, il y avait notamment la joie. Et quand on dit disciple, on ne pense pas forcément à la joie en corrélation. On pense plutôt à la discipline. On pense plutôt au... un petit peu le côté un peu dur, discipline, disciple, on n'aime pas trop. Et pourtant, quand on a prié pour éclosion, il y a cette notion de joie, de joie et de joie. Et du coup, je réfléchissais à ça et j'ai noté une des conséquences de rester au contact du maître, c'est la joie. Une des conséquences de rester au contact du maître, c'est la joie. C'est pas une joie superficielle, c'est pas on a une bonne nouvelle, c'est pas il se passe quelque chose d'agréable. C'est le fait d'avoir cette proximité, la joie de Dieu, elle est en nous. Amen. Amen. Merci. Néhémie 8, verset 10, c'est Néhémie, Esdras qui parle au peuple et leur dit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Je crois qu'il y est, je crois. La joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Dieu devient notre source de joie. Il y a eu le psaume aussi qui a été reçu, 126. On vous encourage, ceux qui ne l'ont pas lu, le psaume 126, de le relire durant la semaine. Il sera proclamé aussi la semaine prochaine. Et il y a ce verset qui nous dit « Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chants d'allégresse. » Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chants d'allégresse. Hier, j'écoutais, vous savez, quand on prépare, souvent on met des chants chrétiens. Alors moi, souvent, je mets des vieux trucs que plus personne n'écoute, j'aime beaucoup. Et hier, j'ai changé et j'ai écouté, il y avait la conférence Présence en Belgique, où est Catherine ? Car Catherine Ronala, c'est une de nos prédicatrices qui sera là la semaine prochaine. C'est elle qui était là l'année dernière, mais rapidement. Là, elle sera là tout le week-end. Et à un moment donné, elle explique, elle dit, les larmes, ce sont des prières liquides. Je trouvais ça tellement inspiré. Je le reformule. Les larmes, ce sont des prières liquides. Amen. Et j'ai envie de nous demander quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a pleuré pour un sujet. Quand est-ce que c'est la dernière fois où on a prié pour un frère, une sœur, un membre de notre famille qui n'est pas sauvé. Et quand on prie, ce verset-là, il nous apporte une bénédiction, un exaucement. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Et Johanna l'a dit tout à l'heure, il y aura aussi Sharon Stone, qui est la deuxième prédicatrice sur ce week-end-là, qui est prophète. Et elle avait dit, Johanna l'a dit, je le répète, ce n'est plus le temps des promesses, mais c'est le temps de l'accomplissement. Et vraiment, quand on a des prophètes qui nous annoncent des choses comme ça, il faut le saisir par la foi. Amen. Luc 1, verset 45, pareil, reçu par le groupe prophétique, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et vraiment, on croit vraiment, et on en est persuadé, que durant ce week-end-là, il y a une huile de joie qui va être déversée. Donc, cette semaine, soyons dans cette attitude, mais vraiment que nous attendions à vivre des choses que nous n'avons jamais vécues, avec une joie. Parce que quand il y a la joie, il y a une libération avec, il y a des délivrances avec, il y a des guérisons avec. Amen. Et vraiment, je l'ai déjà dit, mais on voyage beaucoup. Et il y a une faim, une soif du peuple de Dieu. Donc les gens, ils viennent là pour vivre quelque chose. Et nous, réellement, nous, on est simplement les, entre guillemets, les organisateurs, les facilitateurs. On est juste les facilitateurs, on est juste là pour pouvoir accueillir les gens et faciliter les choses pour que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Pareil, triomphe et gloire, dans les paroles prophétiques, il y a beaucoup de choses qui ont été reçues par rapport au triomphe et à la gloire. Dans Ézéchiel, il y a Ézéchiel 47 qui a été reçu, vous pourrez le lire, j'ai juste pris quelques versets par rapport à ça. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur des bords. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Je ne développe pas plus que ça, mais il y a un fleuve de vie, il y a un torrent de vie que nous vivons, que nous avons cherché, que nous avons réclamé, que nous avons attendu. Et vraiment, il y a un torrent de vie. Et les gens, ils viennent pour ça. Et tous les gens qui sont plongés dedans, il y a plusieurs mots qui reviennent plusieurs fois, tout vivra. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont reprendre vie. Amen. Et l'idée, c'est que cette conférence, ce soit comme un feu, où les gens, ils récupèrent un petit peu de braise. Ils récupèrent un petit peu quelque chose d'enflammé. Et après, ils repartent chez eux. Et il y a beaucoup d'endroits où, par la grâce de Dieu, Johanna est allée. Et les gens, c'était où en Belgique, où en fait, on a revu des gens qu'on avait vus il y a 3 ans, 2 ans et demi. Et ils nous ont dit, mais depuis que vous êtes passés, vraiment dans l'église, il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau. Amen. et on est au bénéfice de tout ça. Et du coup, ce verset-là nous dit vraiment ça. Et on avait l'image aussi qu'il y avait plein de gens qui allaient prendre quelqu'un sur la rive, qui allaient le prendre, comme un ami physiquement le prendre, l'amener dans le fleuve avec. Par rapport au salut, tout le nombre des poissons, les poissons, c'est l'image aussi du salut, c'est l'image des âmes, les poissons. Et donc, du coup, on s'attend vraiment à ça. Amen. Donc, relisez Psaume 126, relisez Ézéchiel 47. J'ai fini sur cette notion de disciple, mais éclosion ou le reste, pour ceux qui sont juste de passage, c'est un disciple, c'est un apprentissage, c'est une transformation. Amen. Et c'est la première chose à laquelle Dieu nous appelle et nous attend. Si tu veux passer, deuxième notion, serviteur fidèle. Serviteur, on a l'impression que ça renvoie à la notion d'humilité, de régularité, de dévouement. On voit que serviteur, enfin, je ne sais pas comment vous l'interprétez, mais il n'y a pas la notion d'une aide ponctuelle. Ce n'est pas quelqu'un qui vient, qui t'a aidé une fois dans sa vie, un serviteur. Serviteur, tu vois que ça dure dans le temps. Il y a cette notion de, voilà, sur du moyen, long terme. Et si tu veux passer, Marc 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. » Donc, serviteur fidèle, quand vous vous rendez compte qu'en premier, Jésus, il est venu lui-même pour servir, à combien plus forte raison nous sommes appelés à la même chose ? Amen. Et Jésus, il était bien là où il était. Il faut juste en avoir conscience. Quand il est venu sur la terre, c'est qu'il a renoncé à certaines choses. Et serviteur, nous, quand Dieu nous attend, nous appelle à être serviteur, à le servir, c'est aussi qu'on renonce à certaines choses. Je me suis marqué, nous, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Il y a plein d'autres choses qu'on aime faire dans la vie. Si à un moment donné, je renonce de faire certaines choses pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir en faire d'autres, ben là, je suis dans cette catégorie d'un serviteur fidèle. Jésus l'a fait lui-même. Donc, nous aussi, on doit le faire. Amen. Et nous allons voir, je pense que beaucoup l'ont déjà expérimenté, je me rappelle l'an dernier des témoignages de... un couple qui m'a dit, mais on n'a jamais vécu ça. Alors qu'ils étaient que dans le service. Ils ont fait que les allers-retours, servir les cafés, apporter les choses, que du service, que des serviteurs. Et ils disent, on n'a jamais vécu ça. Parce que quand on sert, il se passe une guérison, il se passe une transformation aussi. Amen. Et le service dans le royaume de Dieu, donc Jésus a servi, le service dans le royaume de Dieu, c'est jamais une punition. Il faut bien le comprendre, c'est un choix. Le service dans le royaume de Dieu, ce n'est pas une punition, c'est un choix et c'est un honneur. Et parfois, je discutais avec des frères, on a l'impression que nous, parfois, en pasteur, mais je crois que j'ai déjà dit il n'y a pas longtemps, mais on a l'impression que des fois, les gens, ils nous disent « moi, je veux bien servir, je veux bien faire ça », comme s'ils nous faisaient une faveur. Réellement, de mon côté, des fois, je l'interprète comme ça. C'est-à-dire un frère ou une sœur qui me dit « ah, mais si tu veux, je peux faire ça ». Et parfois, on sent un petit côté, c'est un honneur que je te fais. Sois bien heureux, Pierre, parce que je vais venir aider à faire le ménage dans la salle. Réellement, parfois, on sent un peu ça. Et je pense qu'on se trompe. On se trompe complètement. C'est un honneur de servir Dieu. Quand tu fais le ménage ici, ce n'est pas pour Pierre. C'est pour chacun d'entre nous. Et c'est pour honorer Dieu. Celui qui fait la louange, celui qui fait le parking, et la liste est très longue de tout ce qu'il y a à faire ou de tout ce qui devrait être fait, c'est un honneur. Amen. Je prends un petit temps pour du vocabulaire. Parce que ce mot serviteur, vous l'avez dans votre Bible, il y a marqué serviteur partout. Or, derrière, c'est plusieurs mots différents selon les contextes. Vous savez, ça avait été écrit, le Nouveau Testament écrit en grec, et nous, c'est traduit par serviteur. Mais derrière, il y a plein de mots différents selon le contexte. On n'a pas le temps de développer, mais je vous donne juste les mots comme ça, quelques notions. Il y en a un, c'est serviteur dans le sens de domestique. Et c'était du service qui était attaché à la maison. Il y en a où c'est serviteur esclave. Le mot, c'est doulos, qui donnera douleur. Vous voyez tout de suite ce que ça veut dire. C'est le service, mais c'est l'esclave qui est racheté. Et réellement, cette notion de douleur, j'ai l'impression que parfois, dans nos milieux, on la met un peu de côté. On a la douleur, on a la souffrance du péché, on a la douleur, on a la souffrance de nos circonstances de vie, mais parfois, la douleur et la souffrance dans le service, que le service parfois est dur, j'ai l'impression que parfois, on le met de côté. Parce que quand on parle de la joie, de l'excitation qu'il y a à servir Dieu, tout le monde crie « Amen » et tout le monde est heureux, et le côté un peu, ouais, il y a une souffrance quand même dans le fait de servir. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du moyen, c'est du long terme. C'est parce que je renonce à certaines choses. Donc il y a un côté, oui, il y a des récompenses, amen. Mais il y a un côté de souffrance et de douleur. Alors, on n'est pas obligé de dire amen, mais voilà. Et tout ça pour nous dire qu'il y a une dimension, il y a une dimension où je crois vraiment que dans ce domaine-là, on peut mieux faire. On peut mieux faire. Parce qu'on est tous pareils, hein. On n'aime pas trop ce côté-là. Côté serviteur, c'est un honneur, on aime bien. Côté serviteur, il y a une douleur qui va avec, on aime moins. Je nous ai mis comme exemple, quand on a construit le bâtiment ici, il y a des moments où c'était chaud. Il y a des moments où on en a bavé, quoi. Tu te dis, aujourd'hui, on rentre dans le bâtiment, il est propre, etc. Et merci Seigneur pour ça. Mais c'était pas tout le temps, il n'y avait pas tout le temps une demi-heure de prière avant de commencer les travaux, et puis le clou, il s'enfonçait tout seul. Il y a eu plein de galères, il y a eu des moments durs. Il y a des moments où tu te dis, le côté financier, il passe pas. Il y a des moments où on s'est pris la tête aussi entre les frères qui travaillent, parce que tout le monde sait mieux planter un clou que l'autre. Et c'est normal. Mais vous voyez tout ça, il y a quand même ce côté de... Alors, par la grâce de Dieu, on traverse tout ça, mais il y a ce côté-là, et il ne faut pas l'exclure non plus. Amen. Il y a le serviteur ministre, donc ça, c'est le terme qui donnera diakonos, diacre. Ça, c'est plus un service dans l'assemblée. Et il y a un autre parmi d'autres, mais que je veux développer un tout petit peu, upéretes. Serviteur upéretes, c'est le terme grec. Tu peux le mettre, je crois qu'il y est, dans 1 Corinthiens 4, verset 1. Qu'on nous regarde donc comme des serviteurs de Christ. Qu'on nous regarde donc comme des serviteurs de Christ. Et ce mot-là, c'est celui qui aura donné, alors je le recherche, c'est un homme placé, le upéretes, c'est un homme placé en dessous du pont, dans les navires, dans les galères, dans les gros bateaux, soumis aux ordres du capitaine, avançant au rythme donné, sans chercher sa propre direction. C'est-à-dire que vous aviez le bateau là, il y a le gars qui tape, alors je ne sais pas comment c'était un tambour exactement, mais vous êtes capitaine en haut, et en fait, en dessous, le serviteur, avec ce terme-là, dans ce verset-là, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, c'était juste les gars qui ramaient. Pas ramer dans le sens des difficultés, mais qui ramaient au rythme du dessus, au rythme du capitaine. Amen. Sans chercher sa propre direction. Parce que quand tu es dans le bateau et que tu rames, c'est bon. J'ai marqué, nous sommes les rameurs du Christ avançant sous ses ordres. Dans les paroles prophétiques reçues également par rapport à ce côté des serviteurs, il y a eu le livre de Ruth qui avait été reçu. Donc, c'est 4 ou 5 chapitres. N'hésitez pas à le relire. Ça va très vite à relire. Et vous allez voir, il y a des pépites dedans, notamment par rapport à ce qu'on veut vivre la semaine prochaine, notamment par rapport au fait du service, de la servante. Il y a des notions par rapport à ça. Il y avait ce verset dans Ruth où il marquait « Reste tranquille », la belle-mère qui dit à sa belle-fille. Il y a des histoires de belle-mère et belle-fille qui vont bien, d'ailleurs, hein, je vous le dis, vous pouvez les lire. Et du coup, il y a ce verset qui dit « reste tranquille, attends, 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 Dieu va agir, reste tranquille. » Amen. Par rapport au sacrifice, au serviteur aussi, où il y a ce coup, il y a cette douleur, il y avait aussi cette notion qui avait été reçue de sacrifice de louange. Oui, il y a un sacrifice de louange. Oui, quand on loue, et notamment sur des événements, des conférences, il y a cette excitation. Oui, il y a la joie. À 100%, il y a la joie. Mais en même temps, il y a ce côté où ça coûte, ce sacrifice de louange, parfois. Parce qu'on va avoir des frères et des sœurs qui vont arriver dans tous les états possibles et imaginables. Amen. Et c'est vraiment le lieu où on croit qu'il va se passer quelque chose. Et il y a des frères ou des sœurs, ça va leur coûter, et parmi nous également, évidemment, ça va nous coûter aussi d'adorer et de louer. Amen. J'ai marqué, j'ouvre une parenthèse et je la referme. C'était parce que ça fait partie des sujets, mais je veux quand même le dire. C'est quand on fait des conférences comme ça, c'est des choix qui sont faits et j'ai aucun problème avec d'autres rassemblements où ils font différemment. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est qu'on veut vraiment que l'accent soit mis sur Jésus. Je sais que les autres conférences aussi. Mais si vous voulez, on n'a pas voulu être perturbé, le terme est peut-être fort. On n'a pas voulu être gêné par notamment tout ce qui est autour. Comme c'est une salle, l'Axon, qui est complètement... Ça paraît un détail, mais je veux quand même le dire. Comme c'est une salle qui est sombre, il faut des lumières. Et en fait, on a dit qu'on voulait des lumières, mais normales. On veut quelque chose de normal. On veut pas... Ce n'est pas un show qu'on fait. D'accord ? Il y a beaucoup de monde, donc on est obligé d'avoir des micros qui fonctionnent, des lumières qui éclairent comme il faut, parce que la salle est sombre, etc. Mais l'Axon, parce qu'on en a discuté, c'est des vrais sujets, ce n'est pas un show, ce n'est pas un spectacle où on assiste. Donc il y a la lumière qu'il faudra, mais c'est pas il n'y a pas de mise en scène. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est d'avoir un peuple et un corps qui adore et qui loue. Amen. J'étais avec un pasteur cette semaine, et puis il me dit, moi, j'aime pas trop quand il y a les grosses sonos, parce qu'on n'entend jamais le peuple chanter. Ben, je lui dis, il suffit que le gars de la louange, il mette le micro là, hein, et là, tu vas voir si les gens, ils chantent ou s'ils ne chantent pas. Hein. Là, il y a toujours la grosse sono, il y a toujours le micro, il y a toujours tout. Hein. Vous m'entendez au fond ou pas ? Ben en plus, ça sert à rien, je ne sais pas pourquoi vous m'avez fait acheter une sono. Hein. Mais, vous comprenez ce que je veux dire ? Et en fait, il faut que les gens ils expérimentent ça. Amen. Je me suis marqué vigilance spirituelle cette semaine par rapport à tout ça, c'est que quand il y a un événement comme ça, le diable, il est très facile de venir nous chercher dans les petits trucs. Donc, ce n'est pas un conseil pastoral. Mais si ça fait, si ça fait 10 ans que tu disputes avec madame, on peut attendre une semaine de plus. Ce n'est pas le moment de se prendre la tête sur la prise qui devait être réparée il y a 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une vigilance spirituelle et ça, j'ai l'impression que nous, en grandissant avec Dieu, on y est beaucoup plus sensible aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est que vous êtes sûr que dans la semaine, et ce n'est pas du tout des paroles négatives, mais il faut être sensible à ça. Ce n'est pas le moment de se prendre la tête pour des détails. On a une mission, on reste focalisé et centré sur ce qui va se passer le week-end prochain. Amen. Mais soyons-y sensibles. Amen. Donc, disciples, serviteurs, avec ce que ça veut dire. Et dernier mot, ouvrier dans sa moisson. Ouvrier dans sa moisson. Alors, ouvrier, je ne sais pas vous, mais on a cette notion de travail. Là, il y a cette notion de « il va falloir bosser ». Disciple, on a l'impression que c'est il y a la discipline, mais on est auprès du maître. Ouvrier, on a quand même la notion où il va falloir travailler quoi. Ça va être un peu il va falloir travailler quoi. Tu peux le mettre si tu veux le verset 1 Corinthiens 3 verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Et dans ce verset ouvrier, le mot grec c'est synergos. Synergos, sans faire de c'est le mot qui aura donné synergie. Synergie, ça veut dire qu'on est ouvrier, mais c'est pas juste le patron qui nous paye le salaire et on travaille. C'est plutôt la notion de co-ouvrier. C'est en collaboration, c'est en synergie avec Dieu. Amen. C'est-à-dire que nous, on fait, mais on fait avec, on fait ensemble. Ce n'est pas moi tout seul. Celui ou celle qui fait le parking, il n'est pas tout seul. Il faut avoir cette idée qu'il fait, elle fait le parking avec Dieu, en collaboration, en co-ouvrier. Amen. Matthieu 9, verset 35-38. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc ouvrier, là c'est un autre terme, mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Mais le sens principal là, c'est ouvrier, travailleur, laboureur. Il y a la notion de laboureur. En fait, on laboure pour que l'évangile puisse être semé, pour que l'évangile puisse grandir, pour que l'évangile puisse se répandre. Il y a vraiment cette notion-là dans le mot travail. Dans d'autres passages, le mot grec qui est utilisé, c'est technites. C'est tout ce qui aura donné technique. Et en fait, ouvrier, il y a aussi cette notion de technique, il y a cette notion d'artisan. Artisan, dans le sens le plus noble, c'est des gens qui savent faire quelque chose en plus, qui ont une technique. Et par rapport à ça, j'ai un exemple qui est resté marqué, alors ça fait peut-être 15 ans que je l'ai entendu. C'était dans une église Nouvelle Vie au Canada. Et le gars, il dit qu'à l'équipe d'accueil, il avait des gens qui étaient tellement formés pour l'accueil, qu'une fois, une sœur qui arrive, qui avait dit « Si aujourd'hui Dieu ne me parle pas, je me suicide. » Et ces gars de l'accueil étaient tellement formés qu'ils l'ont vu tout de suite. Ils ont pu parler avec la fille parce qu'ils étaient câblés. En fait, ils avaient alors ce côté ouvrier technique. Ils avaient développé le sens pour bien faire ce pour quoi ils étaient appelés. Et le parking, tu peux le faire comme tu veux. Tu peux juste dire bonjour, bienvenue, faire le sourire. Mais on peut aussi faire le parking en se disant on participe à une mission tellement plus grande où je veux que rien qu'au parking, les gens ils aient déjà le petit bout d'onction qu'ils vont vivre durant ce week-end-là. Et ça, on l'a pour tous les services. Amen. Et j'ai marqué, il y a des gens qui vont venir, c'est sûr, découragés, liés, emprisonnés, malades, perdus, loin de Dieu. Et donc, si nous sommes des ouvriers disponibles, on va pouvoir leur répondre, on va pouvoir leur donner ce dont elles ont, ils et elles ont besoin. Amen. J'avais pris, c'est l'image du jour. Si ça, on dit que c'est un frère ou une sœur, un élastique, d'accord ? Nous, dans notre vie de disciples, dans notre vie de serviteurs, dans notre vie d'ouvriers, en fait, on peut être... parce que des événements comme ça, il y a quand même la fatigue, il y a quand même l'organisation, il y a toutes les questions qui t'épuisent, il y a tout ça à la fois. Donc, du coup, il y a des moments de tension. Ouais. Il y a des moments de tension, c'est sûr. Et c'est là où, pour nous encourager, alors c'est pour éclosion, mais c'est pour la vie de tous les jours dans l'Église, c'est quand il y a ces moments de tension, comment est-ce qu'on réagit, nous ? Comment est-ce qu'on réagit, nous ? C'est dans ces moments-là où on voit ton caractère. C'est pas quand tu es à Port-Camargue à 18h, que le soleil est couchant, que tu as les pieds dans l'eau et que tu bois un panaché ou que tu bois un Perrier avec une rondelle de citron qu'il y a un moment de pression. Hein. D'accord ? La pression, elle est quand il y a la fatigue, quand tu es avec ton frère et ta sœur, surtout avec le frère qui t'embête, elle est là. D'accord ? Et là, comment tu réagis ? Et nous, je nous encourage, nous, on doit faire ça. Oui ? On ne doit pas faire... Hier, je l'ai fait, j'ai tiré deux coups, il s'est cassé. On ne doit pas faire ça. C'est bon ? Et ça, c'est dans notre vie de tous les jours. Et si on n'est que dans l'ouvrier ou le serviteur, ça fait ça. Mais si on a toujours l'attitude de disciple, la proximité de Jésus, ça ne fait pas ça. C'est pour ça que les trois sont importants. Amen. Je finis encore quelques paroles prophétiques. C'est pour ça que je vous ai mis une abeille au début. Il y avait le miel et les abeilles qui a été reçu. Par rapport aux ouvriers, la notion d'abeille, elle est absolument évidente. Ça, j'y arrive juste après. C'est que les abeilles, elles travaillent en équipe. Elles ont toutes un rôle bien défini. Alors, je me suis passé une heure au moins à lire sur les abeilles. Elles butinent, ça permet la multiplication. Elles ne font pas la même activité selon leurs âges. Alors moi, j'ai envie de dire, ce n'est pas par rapport à nos âges, nous, mais c'est peut-être par rapport à nos onctions, probablement par rapport à nos appels, par rapport à notre service, par rapport à nos personnalités. Mais sachez que les ouvrières abeilles, les jeunes, elles nettoient, elles nourrissent les larves, elles s'occupent de la reine, elles produisent la cire. Les adultes construisent les rayons, stockent le miel et le pollen, ventilent la ruche, gardent l'entrée. Et les butineuses, elles récoltent, elles pollinisent les fleurs. Amen. C'est une image, le miel et les abeilles pour tout ça. Il y a une sœur qui m'a dit qu'elle danse quand elles ont trouvé les fleurs. Je ne savais pas. Je ne vais pas vous le faire. Mais l'abeille, elle danse quand elle a trouvé les fleurs pour le signaler aux autres. Donc tout ça pour nous dire que c'est tellement organisé. Et je pense que c'est une image de ce que nous allons faire la semaine prochaine. Et au-delà, tu peux mettre l'image maintenant du coup. L'image qui avait été reçue, c'est qu'il y a des alvéoles. Et les alvéoles, vous savez comment c'est, ce sont des structures hexagonales. Je pense que tout le monde le sait, la France, on dit aussi que c'est l'hexagone. Et en fait, il y a toute une symbolique là-dedans. Alors, j'ai même lu que ça, c'est le système le plus solide, leurs alvéoles. Et les scientifiques n'arrivent pas à l'expliquer comment ils ont pu trouver ça. C'est-à-dire que c'est là où ça met on gagne 40% en place que si on avait fait des carrés. Je vous invite à le lire. C'est passionnant. Il faut aimer les abeilles, mais du coup, voilà. Mais c'est passionnant. Je l'ai marqué. Cette forme est remarquable, les hexagones, parce que ça utilise moins de cire possible, ça stocke un maximum de miel et ça rend la structure très solide. Et c'est ce que nous voulons faire également. Et la deuxième idée par rapport aux abeilles, c'est l'autre image, c'est qu'on veut servir comme les ouvriers, comme des abeilles, pour apporter un miel de guérison. On veut vraiment apporter un miel de guérison, qu'on puisse le partager, parce qu'on croit vraiment que Dieu va se pointer. Amen. La moisson est là. Je crois que j'ai encore mis une image. Évidente, l'image, vous la voyez partout, dans tous les milieux chrétiens depuis 2000 ans. Des gerbes d'orge et de blé. Et il y avait cette idée que l'orge, elle est moissonnée en premier. L'orge, c'est céréale riche en fibres, plein de bonnes choses pour le corps et la pensée que Dieu va guérir ce qui est profond, caché à l'intérieur. Les fibres, vous le savez, c'est pour les intestins. Il y a vraiment eu cette pensée que Dieu allait guérir des choses de l'intérieur, des choses cachées. Et vraiment, je crois que ça va être des doses qu'on va pouvoir donner aux gens. Et les gens vont il y aura des guérisons, c'est sûr, et les gens vont repartir avec une dose qu'ils vont pouvoir partager chez eux. Conclusion, éclosion, ce n'est pas juste un projet d'église, ce n'est pas un programme. Là-bas, je sais qu'il y a un livret où on marque ce qu'on a fait, c'est pour les rapports moraux, c'est pour tout ça. Mais vraiment, éclosion, ou d'autres, même tous les autres événements que nous faisons, ce ne sont pas des événements, c'est une mission, c'est une moisson pour toute l'église. Je reprends, un disciple, il suit Jésus, un serviteur, il sert comme Jésus, et un ouvrier, il travaille comme Jésus. On a besoin de disciples engagés, de serviteurs fidèles, d'ouvriers remplis du Saint-Esprit. Et sur les trois termes, tu veux remettre l'image du début, les trois mots là, disciples, voilà, remets ça, merci. En fait, on ne peut pas avoir des ouvriers qui ne sont pas disciples de Jésus. Ce serait par exemple d'avoir un musicien qui ne soit pas chrétien. Ça, ce serait un ouvrier, voire un serviteur, mais un ouvrier sans qu'il soit disciple. On peut très bien imaginer le parking qui soit fait par des inconvertis. On peut l'envisager. On ne le fera pas, mais ça pourrait être des choses. Quelqu'un qui est converti peut très bien accueillir les gens quand la voiture elle arrive et leur dire où se garer. Par contre, si c'est un disciple de Jésus-Christ, je pense qu'il y a une profonde différence. Amen. On ne peut pas avoir un serviteur sans qu'il soit un disciple de Jésus. Sinon, ça veut dire qu'il fait une activité sans intimité. Si j'ai un serviteur, le deuxième, qui n'est pas disciple, ça veut dire qu'il exerce une activité sans intimité avec Dieu. C'est un religieux. C'est un travail sans la pensée de Dieu, sans la direction spirituelle. C'est du service pour soi-même, c'est du service pour être reconnu, c'est du service pour la religion. Jésus nous montre cette priorité dans Jean 12, verset 26. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » D'abord, c'est le suivre, la notion de disciple, pour ensuite pouvoir le servir, la notion de serviteur et d'ouvrier. Dernière et toute dernière de chez dernière image, c'est que tout ce que nous faisons chacun, chacune, et je crois et je pense que vraiment, parfois on n'en a pas complètement conscience, ou parfois on l'oublie un petit peu, c'est que ça, tout ce qui est fait, participe à l'onction de ce qui se passe. Et moi, j'en suis intimement persuadé. Ça veut dire que vous avez les visages publics, notamment nos oratrices, vous avez le groupe de louanges que vous voyez, vous avez tous les gens que vous ne voyez pas. C'est, je sais pas, c'est combien le nombre de personnes? 120 les bénévoles? Un peu plus? Un peu plus, c'est un peu plus de 120 personnes qui servent. Entre des gens qui font le ménage, des gens qui font l'accueil, des gens qui font la sono, des gens qui font à manger, des gens qui ont traité les mails, des gens qui font la louange, des gens qui... etc. C'est plus de 120 personnes qui servent. Pour autant, on a eu beaucoup de frères et de sœurs de notre Église qui ne sont pas spontanément engagés. Et ce n'est pas pour disputer les gens que je dis ça, c'est un constat. Et on a constaté les mêmes choses dans certains services où les gens se sont engagés au début d'année et puis parfois, le service il n'est pas fait. Je ne préviens pas, je ne suis pas là le lendemain, je ne préviens pas, je suis l'équipe de ménage, je ne préviens pas, des choses comme ça. Et je me dis, mais là où on va, et c'est dit avec beaucoup de tendresse et d'affection, comme vous savez que je sais faire, là où on va, on ne peut pas se le permettre. Là où on va, là où Dieu nous amène, il nous attend sur ces choses-là et on ne peut pas se le permettre. Amen. Il y aura durant ce week-end-là des ateliers. Les ateliers sont faits par la plupart de gens que vous connaissez bien, voire très bien, ou que vous avez la possibilité de rencontrer facilement. Laissons la place pour les ateliers, pour les frères et sœurs d'autres assemblées. Oui. Pour les gens et les frères et les sœurs qui viennent. Oui. Ça me paraît évident. Jésus avait pris un âne pour entrer à Jérusalem. C'était un jour de fête, c'était un jour de célébration. Jésus il avait pris un âne pour monter dessus, pour pouvoir rentrer. C'était le Hosanna, c'était les gens qui coupaient les feuilles, qui mettaient par terre. Et l'image que j'avais, c'est que nous, on est cet âne. On est un petit bout, un tout petit bout, chacun, chacune, de cet âne. Juste, on apporte le roi des rois. On amène le roi des rois à des gens qui ont faim et soif. Amen.